Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. En cette période de fromage à raclette pour certains, de ski pour d'autres et de chaussures de ski qui sentent le fromage à raclette pour toute une catégorie d'individus, nous avons décidé de vous proposer des popopop que vous avez potentiellement loupés. Quoi ? Vous n'êtes pas fidèle ? Vous nous trompez radiophoniquement ? Bon, si vous nous écoutez aujourd'hui, ça signifie que l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs. Elle est même gelée si vous nous écoutez depuis la montagne. Bref, qui que vous soyez et où que vous soyez, aujourd'hui, nous vous embarquons sur notre planète pop avec deux poids lourds de cette fameuse pop culture. À ma gauche, Laurent Lafitte, réalisateur de L'Origine du Monde, son dernier film qui avait pour titre initial La chatte à ma mère. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ne l'a-t-il pas gardé ? Réponse dans cette émission. Et à ma droite, celle qui écrase tout sur son passage depuis des années, Madame Catherine Ringer. Au menu donc, L'Origine, Le Monde, La Pop et deux originaux du Monde Pop. Catherine Ringer et Laurent Lafitte. Honneur aux dames pour commencer.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour, Catherine Ringer. C'était quoi ce petit cri ?
Bah c'était parce que j'aime bien imiter et comme j'entends les bruits qui m'entourent et j'entendais genre dans votre générique jingle, il y a quelqu'un qui fait
exactement.
Donc ça m'a donné envie de le faire directement.
Je vais sampler votre voix et je vais l'ajouter dès demain à mon propre générique si ça ne vous ennuie pas.
Je vous en prie.
C'est un peu ça la magie, l'idée de la magie, ce dont je parlais à l'instant, de retrouver des émotions comme ça qu'on a éprouvées à un moment et les retrouver.
Vous l'avez très bien dit, oui.
Oui, ça vous convient.
Vous avez 9,5 sur 10, parce qu'on ne peut pas être parfait, mais... Okay.
Bon, je ne veux pas sortir les grands violons, mais je vous le dis très simplement, Catherine, je suis vraiment très émue de vous recevoir. J'aime tout chez vous, j'aime la fulgurance de votre musique, j'aime votre attitude, j'aime votre audace, votre créativité,
merci.
La puissance de votre résilience, votre folie. Et je ne dis pas ça comme un animateur qui passe la pommade, mais parce que c'est très sincèrement ce que je ressens.
Je vous remercie beaucoup.
Non, mais c'est exactement ce que j'ai envie de vous dire en ce moment. Voilà.
Je le prends avec joie. Et je suis heureuse que vous, Monsieur de Caunes, vous me disiez ça. Ça me fait plaisir aussi.
Merci, Madame Ringer.
Bon, on va faire un peu attention aux auditeurs aussi, peut-être.
Alors, je suis pas le seul dans mon cas. Hein, comment est-ce que vous vivez cette trace que vous avez laissée, Catherine, et que vous continuez à laisser dans la vie des gens ? Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est encombrant ? Est-ce que c'est stimulant ?
Agréable et stimulant.
Mmh. Quand les gens vous le manifestent, comme je suis en train de le faire.
Oui.
De dire un petit peu embarrassant parfois, parce que...
Non, jamais. Je suis plutôt contente. Franchement, je suis fière de ce qu'on a pu faire avec Fred pour servir, puisque les chansons servent à quelque chose, à danser, à être... Quand on a de la peine, à passer cette peine... etc., la joie, tout ça. Je suis vraiment fière de ce qu'on a fait et heureuse que le public, enfin, ouais. Pas tout le public, enfin, les auditeurs et les voyeurs qui viennent nous voir sur scène soient heureux.
Oui, parce qu'il y a un
heureux.
Spectacle sur scène. C'est pas juste de la musique. Hein.
Non, c'est de la musique juste.
Oui.
Mais voilà, je suis très très heureuse et je suis heureuse de continuer aussi à chanter ces chansons, comme je l'ai fait quand je fais d'autres albums toute seule, enfin toute seule, je suis pas toute seule, mais quand je fais des concerts après, je suis toujours chanter, je sais pas, 40% de Rita Mitsouko, des nouveautés, des reprises d'autres choses. Mais là, ce qu'on a fait, effectivement, suite à une intégrale qui est sortie il y a 2-3 ans maintenant, c'est d'illustrer cette intégrale au travers d'un concert où je ne faisais que ça, et même un concert un peu plus... avec plus de musiciens que ce que je fais d'habitude ou que ce qu'on faisait avec Fred.
Ouais, tout est
puisque
doublé,
là, on a deux guitares, deux claviers, pas de batterie ni de basse, mais pour aller au plus près des orchestrations originales qu'il y a dans les disques.
Mais une chanteuse unique. Est-ce que, au final, Catherine Ringer, c'est réconfortant de voir que l'exigence dont vous avez toujours fait preuve dans votre travail, avec et sans Fred, votre refus des concessions, a fini par constituer une œuvre sur laquelle le temps n'a pas prise ?
Si vous le dites comme ça, oui, effectivement. Moi, je pense que le temps a quand même prise sur tout. En plus, j'ai un esprit de contradiction quand même qui va falloir se fader pendant toute l'émission. Mais disons qu'il y a des choses qui passent encore très bien. On me le dit et ça fait plaisir. Mm-hmm. Ça, c'est même merveilleux, oui. Ouais.
L'Hérita, c'est le patrimoine maintenant.
L'héritage d'Hérita.
Ouais, absolument. Ah ouais. Ouais, patrimoine ou le matrimoine.
Et qu'est-ce qu'il me disait, l'héritage Mitsuko aussi, quelqu'un m'a sorti.
C'est bien, tout ça, ça marche.
Voilà.
C'est des...
Le matrimoine, ouais, oh, ouais. Sœur, cousine ni moine, neveu ni moine, je sais pas, c'est pour toute la famille.
Tous les cas, c'est une référence toujours citée. Pourquoi je sais que c'est très difficile à analyser quand on est sous-même l'objet de cette conversation, mais pourquoi les Rita ont-ils marqué à ce point?
Ben, je sais pas, moi. C'est vous qui devez dire ça.
Ben, je sais pas.
C'est vous le chroniqueur.
Ben, non, c'est à vous que je pose la question, puisque c'est vous l'artiste.
Je peux pas vous dire. Je ne pourrais pas faire une analyse... À part dire des banalités, genre, parce que ça a plu, ou des genres de
non,
trucs.
Non, parce que ça...
C'est... Parce que c'est, voilà, je sais pas exactement la raison, je ne l'ai pas cherché.
L'originalité, le mode de production, la folie sur scène, le travail sur l'image.
Allez.
Et puis l'art de composer quand même des titres voilà, qui résistent à tout, absolument inoxydable. Catherine, la vie c'est l'amour, la mort, la musique, des enfants, la transmission. Le parfait résumé de tout ça, eh bien, c'est ce morceau, c'est
la
comme
politique.
Ça.
Non,
laissons ça de côté pour l'instant. Oui, pourquoi pas, si vous voulez, on en parle tout à l'heure. C'est ce morceau, c'est comme ça, mais alors en version live à la Philharmonie de Paris, il y a 2 ans, accompagné sur scène par votre fils Raoul qui tient une des 2 guitares. Attention, montez le son, voilà 5 minutes de pure adrénaline.
Merci.
Thank you.
C'est comme ça, cet extrait de l'album. Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko à la Philharmonie de Paris, une version dingue, une pure décharge d'adrénaline, comme je l'annonçais tout à l'heure. J'en suis tout remué. Bah oui, tiens, d'ailleurs, pour reprendre le titre d'une de vos chansons, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Seigneur, et de Seigneur à Seigneur, ouais. On adore finalement, non?
Oui, c'est bien.
Non,
alors, qu'est-ce
bien.
Que ça vous fait à vous d'être senior?
Moi, je le vis plutôt bien.
Moi aussi.
Je trouve qu'on a une certaine sérénité.
Et puis je trouve que le fait que la vie avance fait qu'on voit la fin arriver et c'est comme une partie d'un jeu. On se dit, ou la fin d'un film, il y a le suspense qui monte, qu'on n'a pas trop de choses à faut pas perdre son temps ni son énergie, parce qu'on en a moins, disons.
C'est-à-dire
donc, on se concentre et puis on sait que là, faut aller. La fin est bientôt, donc...
Ah, la fin est bientôt, Catherine,
bah,
ça va.
Plus que quand on a 15 ans, quoi.
Oui,
à moins de mourir
certes.
D'un accident,
certes,
etc.
Ça veut dire quoi? Que vous ressentez une plus grande urgence à faire les choses?
Une urgence, et puis oui, pas s'éparpiller.
Pas perdre de temps. En gardant cette voix incroyable, hein, moi ce que je vous disais pendant le morceau, je suis stupéfait par la puissance de l'organe. Si je puis dire.
Non, mais c'est bien, mon petit.
Alors, refaites-le-moi, j'en supplie.
Oui, d'accord.
Dites-moi, à l'époque où ça a démarré, toute cette histoire d'Erita, vous démarquiez musicalement et stylistiquement, avec les tenues de scène complètement louvre-dingue, et puis Jean-Paul Gaultier, dont vous êtes devenu une des égéries les plus célèbres, et puis en travaillant aussi en profondeur l'image avec un Mondino, par exemple, qui signait les clips de C'est comme ça, des histoires d'A ou des amants. Et là encore, on peut constater ça. Avec le recul, tout ça reste d'une modernité absolument intacte. Alors que généralement, les années 80 ont pris un peu de plomb dans l'aile. Bon. Qu'est-ce qui a produit cette alchimie?
Mais je crois que c'était justement, entre Fred et moi, on était tous les deux passionnés de pochettes de disques, par exemple. Puisque du temps des vinyles, la grande pochette faisait qu'en écoutant la musique, on rêvait sur la pochette, c'était très important. Du fait qu'on avait aussi un sens du visuel, un sens de l'habillage. Lui aussi, c'était un dandy, il aimait bien les choses fantaisistes, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a eu encore dans ce que vous avez dit? C'était quoi? Bon, l'image, le fait du clip, c'était faire comme des petits musicals, un peu des petites histoires. Donc on était toujours très partie prenante de ça. Celui où on a vraiment laissé complètement faire, c'était C'est comme ça par Mondino, ou Les Amants, c'était vraiment lui qui... Mais sinon, on était toujours intéressés à filmer, à s'habiller, à se montrer, à la fois au niveau audition et œil.
Et visuel.
Ouais.
Et si je vous dis que le point de croisement entre tout ça, c'était l'humour.
C'est tout à fait vrai, ce qui permet aussi de rester longtemps ensemble dans les moments où ça va bien, comme ceux où ça va moins bien. Exactement.
Mais Catherine...
Et en fait, on était aussi très influencés, tout simplement, par les gens du musical, ou la pop, comme les Beatles, David Bowie, tous ces gens qui aimaient bien faire des frasques, disons, du spectacle. Ouais. Comment est-ce qu'il va être habillé? Le nouveau look de David Bowie, c'est la blague. Ouais. Chaque disque qui sortait, c'était différent. Les Beatles, c'est la même chose. Et donc, c'était un peu notre univers, comme ça. Je sais pas, Jefferson Airplane aussi.
Vous n'avez pas l'impression que le monde de la musique est devenu très sérieux aujourd'hui? Les Philippe Catherine Ringer, par exemple, ça ne court pas les rues.
Mais je pense que nous, les anciens, on connaît pas les tout jeunes.
Ouais.
Donc, à chaque génération, j'entendais des anciens qui disaient « Oh, mais c'est pas de la musique, ça !» Et les jeunes qui font « Mais si, tu comprends rien !» Et donc, on doit peut-être être...
Ça continue.
On doit peut-être, à ce point-là, nous, maintenant, il doit y en avoir des marrants. Il y a toute une scène urbaine énorme, en plus.
Ouais.
Qu'on ne connaît pas forcément.
Non, mais je vous parlais d'humour. Bon, Catherine...
D'humour, oui, mais il y en a qui font des trucs marrants chez les urbains aussi.
Oui, bien sûr. Catherine, on va revenir sur...
Et peut-être même chez ceux qui font de la musique électronique sans voix, peut-être qu'ils font des bruits rigolos, qui fait que toute la salle est morte de rire en dansant.
Je vous crois sur parole.
Catherine, on imagine.
On va revenir sur l'actu brûlante de votre tournée en compagnie de ma Mitsouko à moi. C'est le parfum de Pop-Pop-Pop Charline Roux, et ce sera juste après avoir écouté.
Alors
Catherine Ringer, c'est sur ce morceau cultissime que Charline Roux vient de faire son entrée. Bonjour Charline.
Et bonjour.
Mais
bonjour.
C'est vrai que vous portez du Mitsuko, j'adore. Ça change du Rosé Garcia.
Oui,
Charline.
Je vous
Catherine. Charline.
Enchantée.
Charline qui vous a vu récemment sur scène.
Oui, j'ai eu l'extrême chance de vous voir sur scène cet été. Un plaisir que je conseille à tous ceux qui nous écoutent. Et au-delà de l'efficacité, de la force implacable des chansons que vous avez qualifiées pour annoncer le set de, je cite, très connu. Connu et un petit peu moins connu. Ce qui m'a frappé autant que happé, c'est votre manière d'occuper la scène, d'y exister, de vous y mouvoir. Est-ce que la danse, que vous pratiquez depuis longtemps, est aussi une manière pour vous d'aborder la musique ?
Tout à fait, Charline. Oui, non mais c'est vrai, je trouve que la danse, c'est une des composantes... La musique aide la danse, ou la danse aide la musique, en tout cas, ça fait... C'est pas obligé non plus. On peut, mais dans le genre de musique qu'on a fait avec Fred, la danse fait partie. Et puis moi, j'ai pratiqué pas beaucoup la danse, disons sérieusement. C'était quand j'étais jeunette, j'ai fait pas mal de danse avec Luki Zebila, le grand ballet africain, quand j'avais 17 ans, de 17 à 18. 2 ans un peu de trucs contemporains, modernes avec la Martia de la chanson. Puis après, j'ai dansé comme ça, mais je fais plutôt de la gymnastique, moi, que de la danse, disons, pour pratiquer.
Alors, si vous voulez faire de la gymnastique...
J'aime danser, c'est vrai que c'est ensemble. La musique et la danse, pour moi, sont ensemble. Et même quand je travaille la musique, si je fais une musique rythmée, elle va passer par un rythme physique. Et si mes pieds ou mes jambes ou mes bras ou ma tête ne bougent pas alors que je suis en train de faire quelque chose de soi-disant rythmé, je me dis, c'est que ça va pas. Voilà.
Non, mais on voit vraiment sur scène que la musique vous traverse. Et effectivement, c'est un art, une pratique qui semble d'autant plus indissociable de l'œuvre de Rita Mitsuko que l'un des premiers titres très connus, comme vous les annoncez sur scène, vous le disiez il y a un instant, est un hommage précisément à une danseuse. Marcia Baila, titre dont on a encore pu constater la transe qu'elle entraîne aussi dans le public. Alors finalement, faire danser des gens, est-ce que c'était le meilleur des hommages possibles encore aujourd'hui ?
C'est un des hommages possibles.
Ouais.
Oui. La danse... Qu'est-ce que je pourrais vous dire à Gaga
Non, je pense que c'est...
Non, mais il y a vraiment des tas de transe dans le public. Enfin, j'y étais, je l'ai senti, je l'ai vu. Il y a une espèce de mouvement qui marche avec le vôtre.
Oui, parce que vous ne pouvez pas être dans le public quand vous êtes sur scène, Catherine.
Des fois, ça m'est arrivé descendre, je me souviens, des fois avec Fred, surtout à partir du moment où on a des micros haute fidélité, comme on disait dans le temps, HF, quoi, de pouvoir se balader et de continuer à chanter tout en étant dans la salle. Mais ça n'avait pas été très bien pris à l'époque.
Il y a une énergie circulaire entre entre la scène et la salle. Oui,
c'était un peu comme ça, mais je sais que je me souviens, Fred et puis les musiciens me disaient Viens, reviens.
Il y en a une autre enchaînée, il faut revenir. Ouais. Et d'ailleurs, quand vient le moment d'établir une setlist comme ça pour monter sur scène, quand on dispose d'un tel répertoire, comment est-ce qu'on choisit ? Est-ce que vous, il y a des périodes de Rita que vous préférez à d'autres ? Est-ce qu'il y a parfois certains tubes dont vous-même vous vous lassez ? Ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'on
fait ? En tout cas, durant notre existence avec Fred, c'est que quand il y avait des titres qu'on en avait marre de jouer, on ne les jouait pas.
Ouais.
Et si jamais, par exemple, le public, par exemple, Marcia Baila, si on on était fatigués de la chanter. À la fin, je voyais les gens qui disaient, Martial, je disais, il vous manque Martial. Oui, vous voulez qu'on la, mais nous, on est fatigués, là, on n'a plus envie de la chanter, donc, de la faire, on va la faire pas bien. Vous voulez qu'on vous la fasse pas bien? Non. Non. Donc, on préfère ne pas la faire et que la laisser reposer et que quand,
c'est très
quand c'est possible.
De laisser le choix au public.
Mais sinon, on leur aurait fait mal.
Aujourd'hui, Catherine Ringer, ouais. Uniquement sur Spotify, que vous écoutez avec la pub parce que ça vous emmerde de payer les 10 euros d'abonnement.
Ouais. En ce moment, je ne suis pas à Spotify. Je suis, comment ça s'appelle, Qobuz, tiens.
Bon, d'accord. Alors, ouais. Sur Spotify, c'est l'info que j'ai. Vous avez 600 000 auditeurs par mois. Ça fait quoi de chanter pour l'équivalent d'une ville comme Copenhague?
Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas moi qui le fais vraiment, c'est mon robot, c'est les robots qui s'en occupent, là. Hein, et les enregistrements, tout ça. Mais c'est magnifique.
Ah oui, c'est magnifique.
C'est magnifique. C'est merveilleux.
Vous parliez il y a un instant des Beatles, de Jefferson Airplane. Si on revient un peu sur l'histoire et les influences de ce qui est probablement le groupe le plus libre
de
France,
funky, même les mecs, tous les gens qui sont toujours déguisés.
Absolument.
Par Diamond, Funkadelic, tout ça. Bah oui, Bootsy
Collins.
Sans
parler de Tata Yo-Yo.
Bah, Tata Yo-Yo, évidemment.
Non, c'est vrai, c'est pas toujours les Américains.
Mais non, mais parce que alors attendez, parce que mettre dans le même sac Funkadelic et Tata Yo-Yo, quand même,
je vous suis
sur beaucoup de terrain. C'est parce que c'est le musical, l'image, la joie de vivre.
D'accord, ok.
Et bien, puisqu'on parle de gens stylés, puisqu'on parle d'influence, il semblerait que parmi les album fondateur d'Erita Mitsuko, on trouve celui-ci. Propaganda des Sparks, est-ce l'extrême liberté de création qui fait le pont entre vous et les frères Maël? Il y a cet esprit-là chez vous?
Je sais que quand on s'est rencontrés avec Fred, on écoutait tous les deux les Sparks. Moi, j'avais l'album Kimono My House. Ouais. Et je l'avais. Qui est-ce qui m'avait fait connaître ça? C'est pas Martia qui était argentine, mais le metteur en scène argentin avec qui on faisait le spectacle. Et moi, je croyais que c'était des Argentins.
Ah oui.
Et j'étais trouvé ça super que ce soit ni des Anglais, ni des Américains, des Argentins. Et puis après, c'est lui qui m'a dit, mais non, pas du tout. Ce sont des Américains de Los Angeles. Ouais. Mais en tout cas, oui. Je pense que c'est cette liberté. Et puis aussi, ils sont très friands de culture européenne et ça se sent. Ouais. Je veux dire, ça d'ailleurs c'est pas très swing leur musique, c'est plutôt raide même un peu. Ouais. Et donc je pense que ça.
C'est un groupe qui est indissociable de votre histoire parce que le premier nom d'Erita c'était les Sprats en hommage aux Sparks.
Ouais.
Les Sprats c'est des
sont des petits poissons fumés. Ouais.
Ah oui, c'est bien.
C'était bien aussi ça. C'est très pop pop.
Ça claquait non les Sprats.
Oui mais Erita Mitsuko c'était mieux.
Oui c'est nettement mieux.
Parce en termes de fumée déjà c'est.
Oui oui oui. Vous avez vu Annette?
Oui, ça m'a pas plu du tout.
D'accord.
J'ai trouvé ça carrément ennuyeux. Enfin, le début, je trouvais bien l'intro, et puis après, j'ai trouvé que non, ça m'a pas plu. Je peux dire carrément que je trouvais que l'histoire est pas mal, mais elle n'est pas poussée, que les personnages n'ont pas de fond, et puis là, je trouvais que il y a juste une berceuse que j'ai trouvé pas mal, et sinon, même la musique, les mélodies. Trop ennuyeuse, quoi.
Bon, ok.
On sent que c'est bourré de fric. Donc, des fois, quand les films, enfin, quand les projets ou les choses sont pleines d'argent et en même temps pas terribles, c'est encore plus lourd.
Bon, revenons un peu en arrière.
Ouais, alors catégorie.
Mais bon, j'étais déçue de pas aimer parce que j'aurais mieux aimé.
Vous avez eu une très jolie collaboration avec les Sparks, ceci dit, et catégorie collaboration mythique.
Mais vous l'avez vu?
Non, pas encore.
Pas encore non plus. Ouais.
Ça
non.
donne envie. Moi, comme ça, vous le trouverez mieux que comme je vous l'ai bien descendu.
Des week-ends. Je me rattrape ce week-end grâce à vous, Catherine.
Okay. Et donc, dans les grandes collaborations, Laura des Rita est-elle que vous avez aussi été invitée à chanter avec un crooner? I put a spell on you en duo avec Ligouane, c'était pour la musicale de Canal+. Faut-il s'appeler Catherine Ringer pour pouvoir allègrement pincer les tétons d'Iggy Pop, ce que vous faites pendant toute cette prestation enfiévrée?
Pas pendant tout le temps, je fais.
Non, sur la fin,
Sinon, ça aurait été tout le temps, le pauvre.
Mais quel souvenir vous gardez de ce moment?
J'étais extrêmement contente. En plus, c'était marrant parce que c'était une émission où il y avait... une invitée que, enfin, ça avait été que des femmes qui étaient invitées. Oui. En général, je veux jamais faire ce genre de truc où il y a que des femmes. Mais en tout cas, l'idée, c'était que, il y avait plein de femmes qui, normalement, on était toutes en pantalon, on était toutes en robe, ce jour-là. Hein, c'était marrant, toutes les femmes qui sont un peu, genre, viriles et tout, là. Ah! Et qu'est-ce que vous m'avez demandé ? De quel souvenir, oui, souvenir je garde ?
C'est quoi la question ?
Mec, j'étais émue, j'étais contente, mais on avait déjà chanté avec lui puisque il avait fait un, nous on l'avait invité à faire un duo sur une chanson qui s'appelle Femme d'affaires. Où c'est pas hyper réussi, je trouve, le duo non plus. Vous voyez, je dis ça pour moi aussi. C'était drôle de le faire chanter en français.
Oui, alors que,
c'était quoi les paroles ?
On comprend pas un mot quand il chante en français, hein, Iggy.
Je crois qu'il a fait quand même des progrès parce qu'il a fait pas mal de chansons françaises à l'ancienne.
Reprise.
Et là, on le comprend.
Je le vois dans un mois, vous voulez que je lui pince les tétons de votre part ?
Non.
Ce serait drôle.
Pensez-lui autre chose de ma part.
C'est avec plaisir.
Toi, par exemple, la joue. Voilà.
On a pu vous voir aussi, Catherine Ringer, dans le Fashion Freak Show, le spectacle musical et autobiographique de Jean-Paul Gaultier, dans lequel vous chantiez votre répertoire. C'est un choix arbitraire, j'adore cette chanson, Les Amants, et vous chantiez Les Amants comme vous chantiez du James Brown, It's a Man-Man World, avec la même virtuosité vocale. À quelle discipline est-ce que vous vous astreignez pour garder une telle puissance, un tel spectre ?
En fait, le spectre, il a la même largeur, c'est à peu près 3 octaves, et avec la ménopause, il a descendu de 5 tons.
Donc maintenant, je me retrouve avec des voix que je ne savais pas faire avant.
Et en hauteur, j'ai encore, mais ça a baissé un peu, mais j'ai la chance de pouvoir encore chanter mon répertoire. Et ben, je m'entraîne par période. Il y a des périodes où je suis flemmarde et je fous rien, et puis d'autres où je chante.
Ça vous sert dans la vie quotidienne, ça, par exemple, quand vous allez, je sais pas, à la boulangerie, changer de voix?
Ça me sert, de pouvoir changer de voix, exactement.
Bonjour, ouais.
Faire des blagues au téléphone. Merci!
Ah, moi, j'en abuserais, hein, si j'étais
à votre place. C'est amusant, on peut se transformer.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Masterclass de pop culture, c'était Catherine Ringer dans ce Maxi Best Pop. Petit pop break, après avoir exploré le monde d'Erita Mitsuko, c'est dans celui de Laurent Lafitte que nous vous embarquons dans un instant, juste après le morceau Darkness to Light de Damon Albarn.
Darkness to Light, nouveau morceau signé Damon Albarn. Alors, je parlais dans mon introduction de L'Origine du Monde, le premier et dernier film de Laurent Lafitte. Enfin, premier en tant que réalisateur, mais certainement pas le dernier, tant celui-ci est bien réalisé. Et je vous propose de réécouter son pop passage, c'était en septembre dernier. Bon, aujourd'hui, direction un endroit sombre dans lequel on se sent bien. Laurent, il s'agit de... Ben des salles de cinéma, ah, bien sûr, oui. Car vient enfin de sortir aujourd'hui L'Origine du Monde, votre premier long métrage. Charline, rien à voir avec un potentiel biopic de Gustave Courbet.
Alors en préambule, laissez-moi vous dire que Mercredi Confession, sachez qu'en voyant le film, j'irai à m'étouffer en faisant des petits bruits de facochère.
Ah,
c'est cadeau. Et non, ce n'est pas un biopic, le héros s'appelle Jean-Louis, que je qualifierais de bourgeois, bien installé, si on suit à son intérieur cosy et très marqué, installé aussi dans sa vie, qui ronronne paisiblement avec ce qu'il faut de sexe simulé avec Valérie, sa moitié, mais un jour il réalise que son cœur s'est arrêté, littéralement. Pourtant, il respire, il marche, il vit. Alors, il panique forcément. Pour résoudre ce mystère, il fait équipe avec son épouse, son meilleur ami vétérinaire et surtout Margot, coach de vie aux méthodes obscures et radicales. Pour le reste, le titre donne quelques pistes. Vous n'aimez pas, Laurent Lafitte, le mot provoque. Ça tombe bien, nous non plus. Peut-on cependant parler d'un humour assez radical ?
Oui, on peut. Oui, et en même temps, je le trouve accessible et pas si sombre que ça. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait rire. Donc, je peux que partager ce qui me fait rire moi.
Faire rire tout le monde, on le sait, hein, c'est une mission quasi impossible. Pour autant, quand on réalise, est-ce qu'on doit s'en préoccuper ? Parce qu'en réalité, la réception du film en dit plus long sur ceux qui le regardent que sur celui qui le fait. Moi, je sais que je suis une mauvaise personne, par exemple.
Ah, c'est vrai ?
Ouais. J'ai ri beaucoup pendant votre film.
Ah mince. Alors, Vincent Macaigne, il avait un argument pas mal quand on présentait le film en province. Il disait, les gens qui ne rient pas à ce film sont des cons. Je remarque, là, depuis quelques semaines, que c'est pas complètement faux. Donc...
Mais est-ce qu'il y a ça en tête au moment où vous réalisez le film ? C'est-à-dire d'essayer d'atteindre une espèce de maximum de gens ou pas du tout ? Vous restez sur ce qui vous amuse, vous ?
Non, je pense pas à ça. Je pense à moi, à mes limites, à moi. Mais à partir duquel les choses vont plus me faire rire, on va basculer dans le graveleux. Moi, j'aime pas du tout la vulgarité. C'est pour ça, parfois, le pitch du film, il peut faire un peu peur. Parfois, le pitch est moins fin que le film. Enfin, j'espère, parce que j'ai essayé, moi, de faire un film, au contraire, très, très digeste, pas du tout vulgaire, pas du tout provoque, donc pas trash, un autre mot un peu bizarre. Je pense à mes limites à moi, en espérant qu'elles sont partagées.
Eh bien, pour se faire une petite idée de cet humour qui ici nous fait tous rire et vraiment rire, et écoutez la bande-annonce de L'Origine du Monde.
Qu'est-ce qui m'arrive ?
Je comprends rien. C'est ahurissant. Ton cœur ne bat plus.
C'est grave.
Disons que quand on est mort, c'est pas grave. Mais étant donné que t'as l'air vivant, c'est préoccupant. Je vais te réanimer.
Je suis animé.
Je vais faire te briser dos de ma côte que te regarder mourir.
Je t'emmène à l'hosto.
Qu'est-ce qu'ils vont me faire à l'hôpital ?
Ils vont te plonger dans un coma artificiel.
Pour quoi faire ?
Ah, pour que tu ressuscites.
Tu peux dire un truc normal, s'il te plaît ?
Enfin, c'est ce truc qui est pas normal, t'arrêtes pas de bouger, de hurler que t'es mort. Tu trouves ça normal, toi ?
Je suis pas mort, putain, je suis pas mort !
Tu vois bien que t'es pas mort ! M'engueule pas, je comprends rien, là !
Laurent Lafitte, on reproche souvent à la comédie française, le cinéma, pas la troupe, hein, de privilégier le gag à la réalisation. L'Origine du Monde est écrit et dialogué de manière percutante, mais aussi visuellement très chic, esthétiquement très soigné. Est-ce que c'est aussi la rupture entre l'image et le sujet qui vous intéressait ?
Oh, vous êtes beaucoup plus intelligente que moi.
Je ne crois pas, non.
Comment je vais pouvoir répondre à cette question ? J'ai pas les moyens, j'ai pas les armes.
Mais vous avez fait une comédie belle, visuellement, esthétiquement, soigné, très.
Bah, c'est gentil. Oui, je voulais que le film soit.
Quoi,
oui, je voulais que le film soit beau, qu'il y ait du cinéma, que. J'ai essayé d'organiser la réalisation vraiment autour des acteurs et en fonction des acteurs. Donc je suis beaucoup à hauteur de regard, je suis souvent face à eux, tout le temps dans l'axe du regard. J'ai des plans assez séquences, assez posés, et j'aime pas trop dans les comédies quand le rythme est donné un peu artificiellement par un surdécoupage. J'aime bien quand le montage va recréer le rythme donné par les acteurs, mais pas en imposer un qui n'est pas organique, qui n'a pas été trouvé par le jeu. Donc je me suis concentré là-dessus.
C'est l'influence du théâtre aussi beaucoup.
Oui, c'est sûr qu'au théâtre, l'acteur est au centre du dispositif. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'au cinéma, quand je suis touché par un film, c'est souvent un film qui s'adapte vraiment aux acteurs et qui s'intéresse avant tout à ce qu'ils vont proposer.
Justement, Laurent Lafitte, à propos de théâtre, le film est l'adaptation de la pièce L'origine du monde de Sébastien Thierry, qui date de 2013. Une pièce qui a donc failli s'appeler, je le rappelle à tous ceux qui nous rejoignent, La chatte à ma mère. Mais le titre a été refusé par le théâtre du Rond-Point dans lequel se jouait la pièce. Vous aussi, vous avez hésité ou non?
Non, parce que La chatte à ma mère, c'est choquant pour pas grand-chose. Ouais. Ça raconte pas du tout l'histoire. Mmh. C'est rigolo comme ça, l'anecdote est marrante, mais ça ressemble pas du tout à l'histoire. Et non, c'est une très bonne idée qu'a eu Jean-Michel Ribe de refuser ce titre.
Alors plus que sur l'origine, c'est un film sur les origines, puisque ouais. Jean-Louis est de modeste extraction. Il est défini dans le film par sa réussite sociale assez clinquante, et on a l'impression que vous prenez un malin plaisir à le replonger dans ce monde qu'il a tout fait pour oublier. Chaque visite dans l'appartement maternel, différemment décoré du sien, peut-on dire, est une vraie torture.
Il la voit peu, sa mère.
La bourgeoisie, sa morale, son comportement parfois parvenu et contrasté, ça fait vraiment partie de vos sujets.
Oui.
C'était déjà le cas sur scène.
Oui, c'est vrai. Ouais, j'aime bien. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment renforcé ça dans le scénario par rapport à la pièce. Par rapport à la pièce, c'était un peu un état de fait. C'était pas vraiment traité. Et j'ai vraiment voulu renforcer ça. Et c'est pour ça que j'ai rajouté tout le prologue dans le film. On le voit vivre, lui, avant que son cœur s'arrête de battre. On voit qui il est, dans quel milieu il s'inscrit. Et effectivement, il y a eu une émancipation sociale, matérielle. Mmh.
Et on voit qu'il a obtenu à peu près tout ce.
Ouais, il a coché toutes les cases qu'il y a dans. Voilà, il a AD, il a tout coché dans AD, dans le magazine AD. C'est celui d'il y a deux ans. Il est un tout petit peu à la bourre, mais il est persuadé d'avoir tout bien comme il faut. Et puis je veux pas spoiler, mais dans le film, à un moment, on comprend un peu mieux parce que sa mère réagit à un environnement très bourgeois. Je vais pas raconter la scène. Il y a un flashback. Et on voit que elle se sent agressée par l'opulence ouais. ou par la réussite ou le confort en tout cas des autres.
Chaque situation comique du film part d'un postulat finalement assez dramatique et les scènes un peu tragiques sur le papier sont légion dans l'histoire. C'est cette mécanique-là qui vous fait rire vous aussi comme spectateur.
Oui, j'aime bien quand il y a du drame. Ouais, ça me fait rire quand les personnages se retrouvent englués dans des situations pas possibles, quand ils prennent les mauvaises décisions, mais souvent avec des bonnes intentions et ils se retrouvent comme ça embarqués dans des choses qui les dépassent. Il y a souvent ça chez les frères Cohen. Ouais. J'adore quand on est embringué dans des histoires qui sont plus fortes que nous, quoi.
L'origine du monde, c'est une histoire qui vous a tellement touché, habité, que vous n'aviez pas envie d'une autre histoire pour ce premier film, dites-vous. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui se trouvait là-dedans d'aussi impérieux pour vous?
Je suis pas sûr d'avoir encore complètement les réponses, mais...
Faudrait se presser, là,
oui, c'est ça.
Le film sort aujourd'hui.
Mince. j'avais pas ri comme ça depuis très 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 longtemps en voyant la pièce. Et puis elle m'est restée en tête, quoi.
Parce que vous n'êtes pas très rieur, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Il y a plein de choses que je trouve drôles, mais vraiment le rire aux éclats, c'est rare.
Ouais,
c'est rare. Et là j'avais vraiment beaucoup ri. Et il y avait plein de niveaux de lecture différents qui ont infusé comme ça, et l'adaptation s'est faite dans ma tête malgré moi. Et j'étais rentré dans un processus d'appropriation de la pièce de Sébastien, qu'il fallait que j'officialise, sinon c'était du vol. Donc j'ai acheté les droits et je me suis mis au travail, quoi. Mais au départ, je pensais plutôt à une idée originale. Je me suis dit, pour un premier film, je vais écrire. Mais celle-là, elle ressemblait tellement. J'étais presque en colère contre Sébastien qu'il ait eu l'idée avant moi.
Oui, et comme le disait Charline tout à l'heure, à tout ce que vous avez en tête, à tous les thèmes d'ailleurs que vous abordez depuis que moi je vous ai vu au théâtre il y a quoi, une douzaine d'années.
Ouais, absolument. Ouais.
Tout est là.
2008.
Pour réussir un film qui malmène à ce point l'un des plus gros tabous, il faut être bien, très bien accompagné. Et là, c'est le jackpot. Génial Karine Viard, immense Vincent Macaigne, Nicole Garcia démente et les mots me manquent pour Hélène Vincent. Qu'est-ce que vous leur avez dit du film pour les convaincre?
Je les ai déjà laissé lire tranquillement le scénario et ils ont tous beaucoup, beaucoup ri. Et après, quand on a parlé du film, je leur ai vraiment demandé de l'aborder comme un drame. de surtout pas prendre en charge la comédie, de vraiment laisser ça aux situations et au dialogue, mais de jamais jouer comique, de jamais être conscient de la drôlerie des choses. Mmh. Mais c'est fragile, hein. Chaque fois, on était obligé de bien contrôler ça et de se faire la police un peu mutuellement sur cet écueil-là, quoi.
Oui, c'est pour ça, parce que en fait, jouer la comédie et diriger la comédie, c'est deux choses assez différentes. Sur le plateau, dès que vous trouviez que la comédie devenait trop présente, vous disiez, hein, si j'en crois mes informations, joue-la comme pour un équet.
Oui. Oui.
C'est quoi votre méthode?
C'est ça. C'est ça, mais Tachi. Voilà, pourquoi tu la joues comme ça? Tu la jouerais pas comme ça pour Anneke. Donc vas-y, c'est pas sympa. Vas-y. Donc oui, c'était ouais, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus drôle quand on y allait à fond, quoi. Mm-hmm. Je sais pas si c'est une méthode, mais c'est la sincérité en comédie, elle est essentielle. Dans moi, ce qui me fait rire. Il y a des gens qui vont aimer. Ouais. Les grimaces, le burlesque. Mais je pense que le burlesque, on peut le trouver aussi dans l'hypersincérité. Mm. Quand on voit De Funès, qui est très sincère, et il va très très loin dans l'expressivité.
C'est un peu comme le Less is More, non?
Ouais. Oui. Less is More, oui. Mais Less is More, on peut aller over the top aussi.
On peut aller over the top. Ouais. Non, mais je pense au Less is More parce que vous êtes passé par une école d'art dramatique en Angleterre.
Oui, absolument.
De comédie musicale.
Ouais. Donc, là, c'était pas Less is More parce que c'était au comédie musicale. Donc c'était More. More is not enough. Never enough.
Mais après, c'est toujours une question de proportion.
Oui, c'est vrai.
Les dialogues du film sont assez jouissifs, hein, autant pour les spectateurs que les acteurs, j'imagine. C'est le matériau d'origine de la pièce où vous avez ajusté, je pense notamment au projet énoncé par Karine Viard et qui concerne un organe de Vincent Macaigne.
Alors, attendez.
Vous m'autorisez à la lire à plat
parce que... Oui, si vous voulez.
Deux points, ouvrez les guillemets.
Je vous écoute.
Je vais te trancher la gorge, virgule, te couper la bite et violer ta trachée avec. Fin de citation.
Alors, c'est pas exactement ça.
Ouais, bah, je dis mal.
C'est je vais te trancher la gorge, te couper la bite et te violer la trachée avec ta propre bite. Je sais plus rien, un truc comme ça.
Enfin, mais on a l'esprit.
En tout cas, c'est vous ou c'est lui?
Ah, c'est pas dans la pièce, ça, c'est moi. Oui, j'ai saupoudré de...
J'ai de réflexion personnelle.
Voilà, de vision que j'ai de temps en temps. Quand je rêvasse, comme ça.
Vincent Macaigne, qui joue votre meilleur ami, dit, grâce à lui, à son regard, à sa confiance en moi, je suis allé plus loin que je ne m'en sentais capable. Il faut savoir qu'il est quand même passé par les Chiens de Navarre. Je suis vraiment impressionné. Pour moi, un cinéaste est né. Comment est-ce que vous prenez ce compliment d'un acteur que vous avez pourtant martyrisé stylistiquement dans le film?
C'est pas sympa pour François Hollande.
Ouais. Alors, il y a un loup François Hollande, mais la veste barbour un peu ample.
Oui, c'était...
Qui moquait Saint-Bordeaux.
Bah oui, je voulais le voir en aristo. Ça m'amusait. Mais il a été super, Vincent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas travaillé comme il a l'habitude de le faire. Mm-hmm. J'étais très très précis et peut-être un peu chiant, obsessionnel sur certaines choses. Et lui, il a souvent travaillé avec des metteurs en scène qu'il engageait beaucoup pour sa nature, pour ce qu'il allait rajouter, proposer. Et moi, j'étais pas là-dedans. Donc on s'est calé. Et une fois qu'on s'était bien compris l'un l'autre, ça a été génial de le voir s'emparer du rôle et foncer dans le projet. Quoi.
Et vous êtes d'accord avec moi que ce personnage de vétérinaire que joue Macaigne dans le film, c'est le personnage le plus drôle, et c'est un personnage qui a failli être joué par Laurent Lafitte. Pourquoi avoir hésité à prendre Laurent Lafitte? C'est quoi, sa mauvaise réputation? Ses exigences financières peut-être?
Oui, c'est ça, il est très cher. Il se la pète un peu. Je me dis, non, pour un premier long, je vais pas m'emmerder avec un acteur diva. Non, mais je voulais le jouer parce que c'est le rôle le plus drôle, vous l'avez dit. Quoi. Ouais. Donc moi, j'ai mon cerveau reptilien d'acteur qui dit, bon, alors c'est quoi le meilleur rôle? C'est celui-là, c'est celui que je veux jouer. Mais bon, c'était pas pour moi. Et puis ma connexion intime à l'histoire, elle passe par Jean-Louis. Donc il fallait que j'interprète Jean-Louis.
Alors Antoine parle d'un Vincent Macaigne stylistiquement martyrisé, quand toutefois il y a vêtements. C'est quoi le plus compliqué quand on est un comédien lettré, le full frontal ou le débat pour savoir si on doit dire le ou la tarama?
Je réfléchis. Je connais, il est en train de réfléchir à sa réponse.
Il va encore essayer d'être drôle, cet abruti.
Répondez à la question, s'il vous plaît.
Non, bah oui, dans la nudité, ouais. c'est pas confortable. Mais bon, c'est un passage. Mais vous avez pas mal montré vos fesses.
Mais on parle de vous, là, aujourd'hui. Ah,
c'est vrai, d'ailleurs,
oui, c'est vrai, même sur une affiche.
Oui, enfin, l'affiche, c'est pas moi qui étais responsable de l'affiche.
Bah, mais, quand même, vous l'avez validée, je sais comment ça se passe.
Non, mais c'est à vous qu'on pose la question.
Oui, très bien.
J'assume tout à fait la nudité quand la circonstance.
Voilà, c'est ça, c'est la situation qui est intéressante. Donc là, la situation, elle est tellement drôle. Qu'on y est allé, la fleur au fusil. L'image est bizarre.
Ouais, c'est très étrange.
Vous avez compris, quoi.
Non, mais on a déjà beaucoup parlé de cette grande scène de nu. En fait, une scène qui fonctionne parce qu'elle joue sur la sidération d'Hélène Vincent,
bah
qui
oui,
se retrouve face à trois adultes à poil agissant comme si tout était absolument normal. Oui. La sidération, est-ce que c'est ça aussi que vous allez chercher chez le spectateur?
J'aime bien, ouais. Ouais, j'aime bien. Moi, en tant que spectateur, j'aime être sidéré. J'aime me dire non. Oh, ben non. Et être surpris et... voilà, j'aime pas être manipulé, j'aime pas être choqué gratuitement. Ou j'aime, je sais pas, c'est un équilibre hyper subjectif. Mais ouais, j'aime ça. J'aime pas, par contre, quand j'ai l'impression qu'on me brutalise ou qu'on me force à voir des choses que j'ai pas envie de voir. Voilà.
Et cette sidération, Laurent, vous l'avez observée dans les projections publiques qui ont déjà eu lieu?
Oui. Oui, il y a des hauts, il y a des ah, mais c'est toujours suivi par des rires, donc ça va. Mais les gens sont étonnés parce qu'on va un peu plus loin que d'habitude, mais en même temps, quand on voit la liberté de ton qui est plus du côté des plateformes, étonnamment, et c'est un peu inquiétant dans la comédie en tout cas.
Ouais.
Les gens maintenant, pour qu'ils sortent de chez eux pour aller voir un film, il faut vraiment avoir une proposition forte en termes de comédie, parce qu'il y a tellement le choix et sur des choses tellement efficaces, tellement intelligentes, tellement audacieuses. Il faut y aller, quoi. Faut se laisser un peu bousculer.
On va dire que cette proposition est forte, la plus forte depuis 5 ans, disiez-vous, Charline Roux?
Non, moi j'ai dit c'est le film qui m'a fait rire le plus, de manière le plus sonore. C'est pas tout à fait la même chose.
Des sons de Facochère que je trouve curieux.
Je ne sais pas quel est le son de Facochère, mais en tout cas. Mais quel est le dernier film qui vous ait sidéré et ou fait rire aux éclats?
Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Mes meilleurs amis, Borat. Ouais. Borat, vraiment, je trouvais qu'il avait réinventé quelque chose, qu'il avait repoussé des limites, et j'avais pas ressenti ça depuis peut-être les frères Farelli, Marie à tout prix, puis certains Apatow, mais c'était plus du côté des anglo-saxons, notamment des anglais, plus à la télé, avec Little Britain, ou un peu avant French and Saunders.
Le maxi-best pop-pop-pop, Antoine Decaune.
C'était Laurent Lafitte au micro de Pop Pop Pop, et j'en profite pour rappeler que L'Origine du Monde est à découvrir en VOD sur les plateformes, et vous l'aurez compris, il est beaucoup question de son... Voilà. Quittons le monde de Laurent Lafitte pour celui des Kills, à l'occasion d'écouter le morceau Siberian Nights.
I'm happy.
Kills, Siberian Nights. Voilà, c'est sur ce son que s'achève ce maxi Best Pop de Pop 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 sur France Inter. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir L'Origine du Monde, l'excellent film de Laurent Lafitte, et de vous replonger dans toute la discographie de Catherine Ringer. Demain, je vous propose de rembobiner le Pop 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 de l'auteur Maria Pourchet et celui du chanteur Hubert Lenoir.